nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Lorsqu'un mort revient, elle lui dit « Denis est en repos. » Armand lui dit « C'est pas possible. » Elle lui dit « Si. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le faire réparer. Il ne marche plus. » Il lui dit « Si c'est en repos, la réparation va sûrement coûter très cher. Jette-le à la poubelle. Nous en prendrons une vraie personne pour t'aider après notre mariage. Aide-moi, on va le mettre à la poubelle. » Elle le prend par les pieds. Et lui, à la tête, et le sort du cellier. Ils le mettent dans le conteneur poubelle. Une voisine les voit. Elle est grosse, blonde, rousse. Elle leur demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Je lui dis « Je jette mon repos. Il est mort. » La femme lui dit « Pour la fête des mères, mes enfants vont m'en acheter un. Il paraît que c'est très bien. » Et ils entrent chez eux. Le repos, mis dans la poubelle, comme ça, n'importe comment, ça a démantelé. Le cerveau a repris conscience, mais ses membres ne marchent plus. Il se demande où il est. Tout à coup, il entend du bruit vers le couvercle de la poubelle qui s'ouvre. Et apparaît un énorme chien qui cherche de la chair fraîche. Il sent le cerveau. À l'intérieur du corps du robot. Et la peau qui le recouvre. Il laisse le visage et le déchique. Denis François,
pousse un dernier cri. Et son cerveau est déchiqueté avec les fils qui le reliaient au robot. Ainsi finit cette triste histoire. Il faut savoir aussi, c'est que sa femme n'a pas été heureuse. Son mari, plus jeune qu'elle, est devenu aigri, là-bas, et lui prend toutes ses économies. Sa fille, le jeune homme, l'a délaissée après l'avoir eue une nuit. Certains robots deviennent fous furieux parce qu'ils sont pris en ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils étaient. Ils deviennent violents, font des ravages, des tueries.
Mais arrête, tu vas tuer!
Ils tuent les mains nues et avec des armes. Ils tuent des familles entières. Ils sont en service. Ils arrivent d'un coup. Ils semblent étouffés. Ils deviennent fous furieux et tuent tout, détruisent tout, même les gens. Tue à coup de couteau ou étrangle, mette le feu à la maison et s'en va.
Tu vois quelque chose?
Heureusement, les robots sont étroitement surveillés et dès qu'un a disparu, des voitures spéciales le recherchent et surveillent la ville et dès qu'elles le retrouvent, il est immédiatement tué car malgré le cerveau, il est considéré comme machine donc pas de justice pour eux. Il est considéré comme une chose neutre. Pour les retrouver facilement, chaque robot a un bip-bip particulier qui est relié à un ordinateur. Et l'ordinateur se trouve dans la voiture de recherche. Dès que l'atelier Jeune Tout pour Toi prend son robot et s'est enfui, la voiture part à sa recherche. Ça crée des courses-poursuites dans la ville. L'on tire à tout de partout à coups de mitrailleuse sur les robots.
Je vois quelque chose.
Pour le tuer. Pour tuer le cerveau. Plus vite, on prend le robot et on l'incinère. Des fois, c'est très rare, mais ça arrive, des robots accidentellement enlèvent leur bip-bip et on ne les retrouve pas. Ils arrivent qu'ils se fassent embaucher chez des gens ou deviennent SDF. Toutes ces nouveautés laissent indifférents les gens du pop, SDF, etc. Dont d'autres problèmes, soucis, chercher à se nourrir, un toit, se vêtir, se soigner. Comme il y a plus en plus de SDF, malgré que le chômage et la pauvreté officiellement aient été éliminés,
quelque chose.
Mais il faut se rendre à l'évidence, il y a de plus en plus de SDF. Alors il faut faire quelque chose pour que ces gens ne gênent pas les autres, ne dérèglent pas la bonne harmonie des gens bien. Ils n'enlèvent pas, n'enlèvent pas leur vie, leur quartier, etc. Donc, on recrée le fameux cercle idéal, génial de Pontoise. C'est un cercle dans une ville spéciale SDF. On peut les garder dans ce cercle, un cercle invisible, une prison sans barreaux, mais qui existe. Exemple, un SDF qui fait la manche, on lui dit, allez là-bas, viens manger à tel quartier, il y va. Le cercle est déterminé et fermé par des lieux de rendez-vous, lieux ouverts, des deux côtés, un extérieur où le nouveau arrivant entre et un intérieur où il reste, c'est pour le laisser à l'intérieur du cercle. Autour du cercle, pour attirer les SDF, il y a des restos pour eux, hôpital, asile, des banques de vêtements, une radio STF, des distributions de postes à piles, il y avait une distribution de piles, distribution de préservatifs. Le SDF entre pour la première fois dans une de ces établissements. Une fois qu'il a eu ce qu'il a demandé, on fait passer par la porte en face, qui est celle qui le met dans le cercle. Et on le fera toujours passer par cette porte, et petit à petit prendra l'habitude de jamais passer par l'autre porte. Et comme il trouve dans le cercle tout ce qu'il a besoin, il y reste. Ce qui déverse tous les SDF de la ville dans le cercle. Chaque fois qu'il y a un SDF, en dehors du cercle, on le dit, allez là-bas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le cercle est un grand jardin avec des bancs où ils attendent pour aller d'un établissement à un autre du cercle. Ces établissements délimitent le cercle. Ils ont leur radio, leurs chansons, leurs jeux, leurs infos, leurs reportages. On les fait parler, etc.
On les guide. Bien entendu, dans le cercle, il y a un café pour les faire jouer aux cartes et boire. L'on boit sec. Une personne qui boit beaucoup mange peu, vit de rien et ne vit pas longtemps. Et le cimetière est près du cercle. La fosse commune, c'est pour eux. Longtemps discuté pour savoir s'il fallait le café alcoolisant ou non. Puis on a réfléchi et on s'est dit que ça éliminerait rapidement beaucoup de SDF. Des pauvres, en moins, ça fait plus propre. Toutes ces choses sont gérées par Pontoise Genetou et aussi Franc Blanc. Les jours passent. Pour la science et le nouvel homme, l'on continue à voler des enfants, soit pour leur prendre leurs organes, soit pour les former et en faire des hommes de demain. Le vol d'enfants est facile au milieu de toute cette misère. Personne ne fait attention à des enfants. Un de plus ou de moins, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que la famille qui s'en inquiète. La police ne fait même plus d'enquête. Les enfants, dont les tests d'intelligence ne sont pas bons, seront amenés à la clinique Genetou pour toi pour y découper et leur prendre leurs organes. Un soir, Maurice est seul dans son bureau. La journée était particulièrement chaude, étouffante. Il était obligé, c'est de courir d'un point à l'autre de Paris sans air. Il est assis à son bureau à lire ses comptes rendus. Tout à coup,
Une fatigue le prend. Il y voit trouble. Il a chaud au front, à la nuque. Puis, il a l'impression de se réveiller d'un trou noir, quelque chose comme ça, ne se souvient de rien et se demande ce qu'il a fait, où il en est, où il est. Il se sent là. Ses mains ont des fourmillements. Il ne sait plus rien et en même temps, il en a conscience. Il a sommeil. Pose la tête sur son bureau, entre ses bras, et dort. Il se réveille. Comme est-il arrivé? Peut-être la fatigue? Quelque chose? Comme un trou noir? Je me souviens, on est vendredi, c'est le soir, et il se dit, qui sait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu un moment d'inconscience, la fatigue. Et puis, il se dit, peut-être autre chose. La main à la tête, à la tempe gauche, faut que je rentre. Il range ses papiers. Dans le tiroir et sort de la pièce. Une fois dehors, il va vers sa voiture et son chauffeur. Il dit à son chauffeur, à la maison, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et il entre dans la voiture. Dans la voiture, il réfléchit. Cette perte de conscience, le trouble. Et s'il m'est arrivé quelque chose, peut-être, non pas à mon âge, mais il paraît qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Si j'étais paralysé, quelle horreur.
La voiture s'est arrêtée devant chez lui. Il sonne à l'interphone.
Oui, c'est moi. Bien, monsieur.
Le portail s'est ouvert, il entre dans sa propriété, va sonner à la porte de la maison. La porte s'ouvre.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Une fois rentré, il dit :
Je vais dans ma chambre.
Et il monte à l'étage. Une fois dans sa chambre, il voit son lit. Il n'a qu'une envie. C'est d'aller s'allonger sur son lit. Et il s'y allonge tout habillé. Ferme les yeux. Ça fait du bien d'avoir les yeux fermés. Ça le fatigue de voir. Il reste allongé sans bouger. Le temps passe, il n'a pas envie de bouger. On a frappé à la porte, il dit
« Entrez !»
sans bouger.
Des pas. Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est la voix de sa femme. Il ouvre les yeux. Elle est debout, près du lit. Il lui dit,
rien, je me repose un peu.
Elle lui demande, tu es malade? C'est soit sur le rebord du lit, il lui dit,
non, mais j'ai eu un petit instant de faiblesse dans mon bureau. La fatigue.
Elle lui demande, tu veux voir un médecin? Il lui dit,
non, ça va. Il est quelle heure?
20h30. Il se lève et lui dit,
allons manger.
Et ils sortent de la chambre pour aller à la salle à manger. Dans la salle à manger, ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre. Elle sonne pour que les domestiques leur servent le potage. Ils regardent bas et voient les couverts en argent. Ça lui fait mal aux yeux. Elle lui dit,
ça ne va pas?
Il lui dit, je suis fatigué.
Il regarde autour de lui des choses comme s'il ne les voyait pas. Frappe à la porte. Elle dit, entrez. Entre la domestique, avec le potage. Et elle fait le service. Une fois que la chose est faite, elle sort. Terre, mais ça ne lui dit rien du tout. Tout à coup, il voit sa femme en face de lui. Il n'est pas empêché de se dire, qu'est-ce qu'elle va devenir s'il m'arrive quelque chose? Que va-t-elle faire toute seule? Elle lui demande, qu'est-ce que j'ai? Il lui dit, si nous avions eu plusieurs fils. Elle lui demande, pourquoi? Il lui dit, parce que je suis plus bien bon et qui va s'occuper de toi. Elle lui dit, mais tu es encore là? Il lui dit, oui, mais un accident. Viens vite. On frappe à la porte. C'est pour le plat de viande. Change les assiettes. Et on met d'autres et sert la viande. Lorsque c'est fait, la domestique sort de la pièce. Lorsqu'il voit son assiette, il n'a plus faim. Il lui demande, tu ne manges pas? Il lui dit, non, j'ai pas faim. Tu es malade? Il lui dit, je crois, c'est que j'ai eu une petite attaque ce soir dans mon bureau. Elle devient toute pâle et lui dit, mais tu as appelé quelqu'un? Il lui dit, quand on a ce genre de choses, on ne peut rien faire. Même pas appeler un médecin. Elle lui dit, tu veux que j'en fasse venir un? Il lui dit, oui, peut-être, ce serait mieux. Elle se lève et lui dit, il se lève. Elle lui dit, je vais t'accompagner un peu. Je vais t'aider. Elle le prend à la taille, il se sent mieux. On s'occupe de lui et ils sortent de la salle à manger. Elle le mène à sa chambre. Une fois dans sa chambre, elle l'aide à se déshabiller. Attends. Là. Et à le coucher. Voilà. Je vais téléphoner de suite au médecin. Ne te fais pas de soucis. Et elle sort de la chambre. elle va au bureau téléphoner. Allô? J'aimerais parler au docteur Dutour, s'il vous plaît. Je suis Madame Framblanc. Bien. Allô, docteur? Je suis Madame Framblanc. Je m'excuse de vous déranger, mais mon mari a eu une attaque. Il faut que vous veniez de suite, s'il vous plaît. Merci, docteur. Plus tard, le médecin va à la chambre de Maurice, accompagné de sa femme. C'est un homme grand, mince, distingué, cheveux grisonnants, habillé d'un costume gris. Elisabeth frappe à la porte.
Entrez,
disant. Maurice est au lit. Sa femme lui dit, le docteur est là. Le docteur lui dit, bonjour monsieur, j'espère que ce ne sera rien. Et il ouvre sa petite mallette, lui ausculte le corps, lui regarde les yeux, les réflexes, lui écoute le corps, palpe la main, l'attention, et dit, à première vue, vous n'avez rien, mais il va falloir venir à la clinique faire des examens plus approfondis. Proposez-vous et venez demain matin à la clinique. Nous vous prendrons en urgence. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et il sort avec sa femme. Une fois dans le couloir, la femme demande « Alors, docteur ?» Le docteur lui dit « Peut-être une fatigue nerveuse, rien de grave. Mais il va falloir tout de même l'examiner. Si quelque chose arrivait dans la nuit, appelez une ambulance et la clinique de suite. Allez, au revoir, madame, et courage. Au revoir, docteur. » Elle est effondrée, son mari malade, lui qui ne l'était jamais. Elle décide, c'est de passer la nuit à le veiller dans un fauteuil près de son lit. Il passe une nuit calme. se réveille, trouve sa femme à côté de son lit. Elle lui demande « Tu vas mieux ?»«
Oui, ça peut aller, merci. »
Elle lui dit « Tu vas aller faire des examens complémentaires à la clinique ce matin. » Il lui dit «
Ah, oui ?»
Il n'a pas tellement envie. Elle lui dit «
Fais-le pour moi, pour nous. »
Et il va à la clinique Jeune-Tour-Riquin. Sa femme prévient le siège qu'il est malade. Tout le monde est en effervescence. Le patron malade. Et qu'est-ce qu'il a ? Judith est très inquiète. Et s'il mourait maintenant ? Gilbert n'est pas prêt. Elle dit à Harold qu'elle a convoqué dans son bureau.
Ce serait la catastrophe. Les entreprises sans chef et nous sans élus prêts. Je vais téléphoner à sa femme.
Elle prend le téléphone et fait le numéro.
Allô ? J'aimerais parler à Madame Franblanc. Je suis Judith Claire. Allô, madame, j'aimerais avoir des nouvelles de votre mari.
Et la mère lui dit qu'il est à la clinique et qu'il a peut-être eu une attaque.
Judith est dans tous ses états. Mon Dieu, que faire ?
Elle dit à Harold, il est à la clinique Jeune Tout. Harold lui dit,
eh bien, rien n'est perdu. Ils peuvent nous l'arranger et même nous changer le cerveau, lui mettre un synthétique. Le temps que l'on en trouve un autre, il sera encore PDG. Et même, si c'est le fantôme du PDG.
Vous avez raison, un PDG. Il nous en faut un. Je téléphone à la clinique.
Elle demande le directeur et lui dit qu'il faut absolument que Maurice, notre PDG, soit le plus longtemps possible, parce que Gilbert n'est pas prêt. Le directeur lui dit,
ne vous faites pas de soucis, nous ne le ferons pas péter comme ça.
Maurice est arrivé à la clinique. Les gens étaient informés que le PDG était chez eux. Vite, on l'a mené dans le service des gens importants, comme la reine d'Angleterre, le président des États-Unis d'Amérique du Nord, etc., etc. On l'a mis dans la chambre comme une chambre d'hôtel. Des médecins informés sont venus le voir. On l'a déshabillé. Pour le scanner, radio, tension, prise de sang, urine, réflexe, yeux, oreilles. Le tout avec des messieurs le président par-ci, monsieur le président par-là. Sa venue a été tenue secrète à cause des journalistes et de la bourse.
Charlotte téléphone à Gilbert.
Allô? J'aimerais parler à Gilbert, s'il vous plaît. Je suis sa mère. Merci. Allô, Gilbert? Bonjour. Mon petit, ton père a eu une attaque. Il est à la clinique pour examen. Gilbert est surpris et ne sait quoi dire. C'est grave? Elle lui dit, une attaque, c'est toujours grave, mon petit. Gilbert lui dit, je peux aller le voir? Elle lui dit, il vaut mieux pas, mais tu peux venir chez nous? Bon, je viens. Elle l'a reçu au salon. Lui a dit ce qui s'était passé et lui a dit aussi qu'il était triste de ne pas avoir des fils, qu'il avait peur pour moi. Gilbert lui dit, mais je suis la mère. Elle lui dit, faudra un peu plus le lui montrer, mon chéri. Il lui dit, tâcherai, mère. Mais mon Dieu, pourvu qu'il ne meure pas, je ne suis pas prêt. Il est comme le dauphin Louis XVI, qui se sent perdu, plein de responsabilités. Maurice, après les examens, long, il attend dans sa chambre les résultats. On frappe à la porte.
Entrez.
Et entre un commando de médecins, d'infirmières avec le directeur de la clinique. Le directeur lui dit, Monsieur le Président, après avoir vu les résultats des examens, nous vous informons que tout va bien. Maurice lui dit,
alors, il me malaise.
Directeur lui dit, de la fatigue nerveuse, un peu de repos.
Maurice lui dit, merci pour tout.
Directeur lui dit, mais tout de même, il faudrait c'est que vous reposiez un peu. Vous avez trop de responsabilités. Il faudrait vous faire aider. Vous avez trop de surcharge de travail. Et ce n'est pas bon du tout.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morvetti.
CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.